Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde. Дневники мира.
Europa 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour, soyez les bienvenus. Jusqu'à 14h ensemble, on écoute le monde changer. Comment vit-on ailleurs ? Comment vit-on par exemple dans le Haut-Karabakh, ce territoire peuplé d'Arméniens et que revendique l'Azerbaïdjan ? C'est la guerre là-bas, on va écouter les habitants qui fuient ou qui se battent. Comment vit-on en Argentine quand on fait partie de cette partie de la population, presque la moitié, qui a sombré dans la pauvreté ? Et bien souvent on n'arrive plus à se loger et on occupe un terrain avec d'autres familles, on va écouter ces gens-là. Comment détecte-t-on un cancer du sein ? Par palpation, parfois. Je vous emmènerai rencontrer des femmes non-voyantes qui ont développé des compétences étonnantes et travaillent dans des centres de dépistage en Allemagne. Enfin, comment vit-on au Kenya quand on souffre d'une maladie mentale, à commencer par une dépression ? Eh bien, on vit souvent entre quatre murs et parfois attaché. C'était hier la Journée mondiale de la santé mentale et le chantier est immense. Les carnets du monde sont ouverts et on prend d'abord la direction du Haut-Karabakh.
Europe 1, les carnets du monde.
Dimanche 27 septembre, les premières bombes tombaient sur le Haut-Karabakh, cet état montagneux peuplé d'Arméniens et qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. Son statut est un peu complexe. Le conflit est latent depuis 30 ans, depuis que le Haut-Karabakh a proclamé son indépendance de l'Azerbaïdjan en 1991, au moment de l'éclatement de l'URSS. Les frontières dataient des années 20. Elles avaient été dessinées par Staline. Et donc ces 30 dernières années, il y a eu des affrontements ponctuels. Mais aujourd'hui, les combats sont plus intenses. Bonjour Marion Gauthier.
Bonjour.
On a voulu entendre ceux qui vivent sur ce territoire, qui subissent ces combats. Et vous avez réussi à joindre des gens sur place. Ce qu'ils racontent d'abord, c'est le choc de cette offensive armée à laquelle ils ne s'attendaient pas.
Oui, ils racontent tous ce matin terrible pour eux du dimanche 27 septembre. Tous parlent du bruit qui les a tirés du sommeil à 7h30, des explosions, des sirènes d'alarme, puis des avions de défense du Haut-Karabakh. Tous parlent d'une ville tout entière au balcon, des habitants qui se regardent quelques minutes sans comprendre. Et j'ai notamment parlé à Nona, qui est une mère de deux enfants, prof de français. Elle habite Stepanakert, la capitale.
Je réveillais mes enfants, et voilà, en tremblant, nous nous sommes habillés, nous sommes descendus dans un sous-sol. Les voix des sirènes, c'était très terrible, très forte. Mes enfants, ils ont commencé à pleurer, crier. Quand mon fils, qui a 10 ans, quand il a dit « Maman, peut-être on va nous tuer », mon cœur était claqué, je ne sais pas.
Et la famille a passé 3 jours au sous-sol de sa maison, puis elle s'est séparée, comme beaucoup d'autres dans le Haut-Karabakh. Le père est resté, le frère aussi, et Nona, sa belle-sœur et leurs enfants ont fui vers Erevan.
Mon mari, il a trouvé des voitures pour nous envoyer en Arménie, dans un endroit plus calme. Tout est abandonné. J'ai pris seulement les choses plus importantes, c'est-à-dire les vêtements, mon passeport et voilà, mon portable. Moi, je suis patriote et j'espère que je vais revenir mon Artsakh parce que nous ne pouvons pas vivre sans notre pays.
Alors, je précise que Artsakh, c'est le nom du Haut-Karabakh en arménien. Depuis le début des combats, la moitié des 140 000 habitants du Haut-Karabakh a été déplacée, en majorité des femmes, des enfants et des personnes âgées. Mais d'ailleurs, Marion, les hommes ne peuvent pas quitter le territoire.
Non, ils sont tenus de rester pour participer à l'effort de guerre avec l'armée arménienne qui est aussi mobilisée sur la ligne de front. Le sort des soldats, c'est bien ce qui préoccupe Raya, qui en est pourtant à sa troisième guerre. Cette mère de 4 enfants a quitté Stepanakert en catastrophe, elle aussi. Elle regarde l'histoire se répéter, impuissante.
Mon cœur me fait mal car mes proches, les hommes sont à la guerre et nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Il y avait beaucoup de fois, on a bombardé Stepanakert et maintenant notre ville est en ruine, on peut dire. Quand on a commencé, tous mes souvenirs ont réveillé tous mes souvenirs. Pendant la première guerre d'Artsakh, j'avais 8 ans. Pendant cette guerre, j'ai perdu mon père et je ne voulais pas que mes enfants restaient aussi sans leur père.
Alors cette semaine, Amnesty International a dénoncé l'utilisation de bombes à sous-munitions qui sont pourtant interdites depuis 2010 par une convention internationale.
Oui, et c'est surtout la quantité d'armes en présence qui pose question. J'ai pu joindre le journaliste indépendant Vae Termination, qui était cette semaine à Stepanakert et Chouchi, près de la ligne de contact. Il parle de débauche de missiles et de villes fantômes tapissées de munitions.
Quand on se promène dans les rues, on trouve des affûts de bombes qui dépassent d'un mètre au-dessus du sol. Ça vous laisse imaginer la quantité qu'il y a en dessous. Tout ça dans une ville. Pour cette région, on est passé à un niveau d'armement qui est élevé d'un cran. Moi, par exemple, le chauffeur qui m'accompagne, c'est un vétéran de la guerre de 92-94 du Khalabar. Il me disait qu'il n'avait jamais vu de tels armements. Le plus petit calibre aujourd'hui était le plus gros qui était employé à cette époque.
Voilà pour les combats. Ce qui est frappant aussi, Marion, c'est cette mobilisation à l'arrière du terrain de combat, la solidarité qui s'est organisée.
Oui, vraiment, tout le monde est sur le pont. J'ai appelé une guide touristique d'Erevan, mobilisée elle aussi. Mariam explique que des villes entières d'Arménie se sont transformées en véritables associations humanitaires. Dans les rues, on ne croise que des bénévoles qui récupèrent dans les institutions ou chez les particuliers des vêtements, des médicaments, de l'argent et de la nourriture.
Du matin jusqu'au soir, ou bien pendant toute la nuit, il y a en deux rotations. Donc les gens travaillent pour envoyer tout ça aux Arméniens qui sont dans les frontières, aux Arméniens qui restent dans le territoire du Haut-Karabakh. Tout le monde essaie de recevoir ses familles, les mamans avec leurs enfants, les grands-parents qui ne peuvent rien faire sur le territoire. Ils sont dans tous les hôtels, ils sont dans les familles, ils sont partout.
Et les bénévoles réceptionnent aussi tout ce qu'envoie la diaspora, des millions d'Arméniens à travers le monde qui pleurent sur les images de l'Est du Haut-Karabakh dévasté. Aram Gazarian est chirurgien, un médecin parmi d'autres qui quitte la France pour prêter main forte à l'Arménie. Il est parti cette semaine à Erevan avec 5 valises de 25 kilos chacune, plus de 120 kilos de matériel chirurgical et de médicaments.
Les hôpitaux ont doublé leur capacité. On a mis 2 lits dans une chambre d'un lit, 3 dans une chambre de 2. C'est une guerre qui tue autant qu'elle blesse du fait des armes actuellement utilisées. C'est ce que disent les chirurgiens ici. Par exemple, il n'y a pratiquement pas de blessés par balle. Les blessés sont des blessés par éclat d'obus. C'est des blessures graves parce que c'est des blessures qui provoquent ce qu'on appelle des pertes de substance. Et donc, ces patients qui le plus souvent souffrent sont remarquables de discipline, souvent demandant à être réparés au plus vite pour retourner au front.
Alors, les pertes s'alourdissent chaque jour des deux côtés. Déjà plus de 400 morts officiellement, mais c'est sans doute un bilan très partiel. Chaque camp affirme avoir éliminé des milliers de soldats ennemis. En fait, on ne sait pas très bien. Et puis, chaque camp accuse aussi l'autre de viser des civils, Marion.
Oui, l'Arménie affirme que les frappes azéries sont lancées de plus en plus loin de la ligne de front, dans le but précis de déplacer le plus de population possible. C'est en tout cas l'explication de Ovanes Gevorkian, représentant du Haut-Karabakh en France. Il soutient que l'Azerbaïdjan veut vider la région de ses habitants et épuiser son armée par les frappes aériennes, les drones et les tirs de roquettes qui touchent la République autoproclamée.
Vendredi, il y a eu des négociations à Moscou pour calmer le jeu.
Oui, la Russie a réuni les ennemis autour d'une table et hier, au petit matin, une trêve avait pu être signée. Mais à peine entrée en vigueur, à midi, heure locale, les deux parties s'accusaient mutuellement de violer ce cessez-le-feu. Leurs positions, les mêmes depuis 30 ans, sont toujours irréconciliables. L'Azerbaïdjan veut reconquérir un territoire qu'il estime occupé et l'Arménie rejette catégoriquement l'idée d'abandonner le territoire du Haut-Karabakh.
C'est ça. Merci Marion pour ce coup de projecteur sur cette région, le Haut-Karabakh, ce territoire que se disputent donc l'Azerbaïdjan et l'Arménie depuis bien, bien longtemps. Merci beaucoup.
Merci.
On change de continent et de combat, puisque c'est contre la pauvreté que de plus en plus de familles doivent se battre en Argentine. C'est là qu'on se retrouve dans quelques instants.
Europe 1, les carnets du monde.
Conséquence de la pandémie, partout dans le monde, la pauvreté augmente. Selon la Banque mondiale, 150 millions de personnes pourraient basculer dans l'extrême pauvreté d'ici la fin de l'année 2021. Évidemment, pour les pays qui traversaient déjà une crise économique, c'est encore pire. C'est le cas de l'Argentine. En récession depuis 2018, là-bas, le chômage grimpe en flèche et la pauvreté concerne désormais plus de 4 personnes sur 10. Et l'accès au logement, qui était déjà compliqué, devient aujourd'hui quasi impossible. Je vous emmène à Guernica, en grande banlieue de Buenos Aires, où des centaines de familles occupent depuis la mi-juillet un immense terrain vague, dans des conditions extrêmement précaires. Ces familles sont menacées d'être bientôt expulsées par la police. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Aude Villiers-Moriam. La petite chambre fait à peine 5 mètres carrés. Entourée de murs de tôle, son toit a été construit avec des branches et une grande bâche en plastique.
Acá dormimos. Es una cama improvisada, con troncos, con todo, y colchón bueno que me prestaron.
C'est un lit improvisé, m'explique Tamara, 26 ans, qui me montre la cabane où elle vit depuis 2 mois et demi avec sa fille de 8 ans.
Je vivais dans une petite maison très précaire dans la ville de Guernica chez mon frère, qui a 5 enfants. On était tous entassés. C'était compliqué, c'était pas une bonne situation. Je me suis installée ici le 22 juillet. Au début, c'était très dur, il faisait très froid. Parfois, on ne pouvait pas dormir ou on se réveillait avec des pics de glace prêts à nous tomber sur le visage. Ce ne sont pas des conditions luxueuses que j'offre à ma fille. Je n'aime pas la situation qu'elle vit en ce moment et je n'aime pas non plus l'exemple que je lui donne. Mais c'est tout ce que je peux faire aujourd'hui car payer un logement, c'est quasiment impossible.
À l'image de Tamara et de sa fille, des centaines de familles dans le besoin ont installé à Guernica des abris de tôle, de carton et de bâches en plastique mi-juillet, en plein hiver austral. Ce camp de fortune, situé sur un immense terrain vague, s'étend à perte de vue, en bordure d'un quartier populaire de la ville. Impossible ici de respecter les mesures de prévention face au coronavirus. Les habitants doivent aller chercher de l'eau chez les voisins du quartier d'à côté. À quelques centaines de mètres de la cabane de Tamara, Sébastien s'est installé avec sa famille sous une grande tente beige. Ses 3 jeunes enfants jouent, assis dans l'herbe.
Avant, on louait un petit appartement, mais on n'arrivait plus à payer le loyer. La propriétaire a tenu 1 mois et demi, 2, et puis elle nous a demandé de partir. C'est illégal, mais dans ces quartiers, nous sommes tous des personnes humbles. Il n'y a pas de contrat de location, tous décident à l'oral. Moi, je suis peintre en bâtiment, je travaille au noir, je n'ai pas de permis de circulation pour aller travailler à Buenos Aires. Et dans l'entreprise où je travaillais, tout le monde s'est retrouvé sans boulot durant la pandémie.
Sébastien refuse l'image de délinquant qu'une partie de la société argentine attribue aux familles installées à Guernica.
Dans le quartier, on s'entraide entre voisins, on est tous unis. Nous sommes davantage une famille que de simples voisins. Ce qu'on veut, c'est construire un quartier, pas un bidonville. Moi, je voudrais rester ici, et si on ne me le permet pas, eh bien qu'on me propose un terrain où aller. Je ne demande pas qu'on me l'offre, bien sûr, je le paierai petit à petit. J'espère que ce sera possible, qu'on gagnera cette bataille, et que je pourrai construire ma maison, que le quartier se construira aussi peu à peu.
Plusieurs associations sont présentes au quotidien à Guernica. Elles viennent en aide aux familles, notamment en organisant des soupes populaires. C'est le cas de Barrios des Pieds, quartier debout en espagnol. Ce mercredi, les membres de l'association passent devant la cabane de Jessica, 21 ans. Cette mère célibataire de 2 enfants, enceinte d'un 3e, a longtemps vécu dans les rues de Buenos Aires, la capitale. Elle s'inquiète de la procédure d'expulsion décidée par la justice et qui doit démarrer la semaine prochaine.
Je vais bientôt accoucher, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai peur parfois de rester ici à cause de l'expulsion. J'ai peur qu'ils fassent du mal à mes enfants. Mais j'ai décidé que ce jour-là, je me mettrai devant la tente et ils ne pourront pas m'en expulser. Ou alors, ils devront m'en expulser morte. Parce que si je dois partir, ce sera pour retourner dans la rue et je ne veux pas ça, c'est trop dur. Ici, au moins, je me bats pour avoir accès à un terrain à moi, pas pour vivre sous un pont. J'espère que la menace de l'expulsion s'éloignera une fois pour toutes et que je pourrai construire une petite maison. Les gens ont dit qu'ils m'aideraient. On a traversé beaucoup de difficultés.
L'évacuation du terrain a déjà été repoussée 2 fois. Les familles espèrent que l'idée sera abandonnée. Des négociations sont en cours entre les autorités, les occupants du terrain et les associations. À Guernica, dans la province de Buenos Aires, Audvillier Moriamé, Europe 1.
Retour en studio et on est en ligne avec Audvillier Moriamé qui a regagné la capitale. Bonjour Aude.
Bonjour Sophie.
La police prévoit d'expulser les occupants de ce terrain dans quelques jours seulement.
Et oui, parce que ce terrain, même s'il est de fait à l'abandon, est privé et la justice a donc ordonné son évacuation. Reste à voir si l'expulsion aura effectivement lieu. Ce n'est pas facile, c'est un terrain qui fait 100 hectares et puis même politiquement, évidemment, c'est délicat. On parle de plusieurs centaines de familles qui ont souvent des enfants en bas âge.
Est-ce que les autorités offrent une solution alternative à ces personnes ?
Alors oui, la province de Buenos Aires a passé un accord avec près de 500 familles. Elle leur a versé une aide d'environ 50 000 pesos, soit 550 euros. Mm-hmm. Et elle leur a aussi distribué du matériel de construction pour qu'elles puissent s'installer ailleurs, mais où, disons que c'est un peu repousser le problème plus loin. Les associations et partis de gauche plaident, eux, pour que l'État réquisitionne le terrain et en fasse un vrai quartier, proposant ainsi aux familles d'acheter les parcelles qu'elles occupent actuellement.
Les occupations de terres, c'est pas un phénomène nouveau en Argentine, n'est-ce pas ?
Non, ça existe même depuis des décennies. Il y a dans le pays en fait un vrai problème structurel d'accès au logement, même pour les classes moyennes. Les loyers sont très élevés, il y a peu de logements sociaux, l'accès au crédit immobilier est extrêmement limité, et puis il est quasi impossible d'acheter si on n'a pas de dollars, parce que la monnaie du pays, le peso, se déprécie en permanence. Or, il est de plus en plus difficile d'économiser en devises étrangères. Les Argentins n'ont le droit de changer que 200 dollars par mois.
Ouais, évidemment, dans le contexte de la crise économique que traverse l'Argentine depuis 2018, cette crise est aggravée par la pandémie, la pauvreté augmente.
Et oui, le gouvernement a eu beau interdire les expulsions de locataires durant le confinement et interdire les licenciements, et bien dans un pays qui compte 40% de travailleurs informels, ces mesures n'ont pas toujours été respectées. Et pour les personnes qui se retrouvent sans revenus, l'occupation de terrain en friche est parfois l'unique option. Alors on voit des occupations un peu partout à travers le pays, mais rarement d'une ampleur comme celle de Guernica.
Merci beaucoup Aude Villiers-Moriamé, merci pour ce décryptage un peu de la situation et puis de ce reportage auprès de ces familles dans ce quartier de Guernica, en grande banlieue de Buenos Aires. À très bientôt.
À bientôt, Sophie.
À suivre, une musique dans le monde, ou plutôt des musiques dans le monde. C'est Angèle Châtelier qui nous rejoint dans un tout petit instant.
Europe 1, les carnets du monde.
Et voilà la page culture des carnets. Désormais, vous le savez, on alterne entre un livre, une série et une musique dans le monde. Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour Sophie.
Et oui, cette semaine, c'est la musique. Avec cette question, pourrait-on faire un album sur chacun des États américains ? Un artiste américain prolifique à la musique nébuleuse y a songé. Angèle, Sufjane Stevens, c'est votre découverte de la semaine dans les carnets du monde.
Alors, Sufjane Stevens aurait pu être le gourou d'une secte. Il aurait eu de nombreux fidèles. Il y a des forums sur lui, des théories sur ses chansons. Beaucoup l'écoutent, l'adulent même depuis ses débuts. Son album Greetings from Michigan, notamment sorti en 2003, c'est un concept album autour de cet État américain où il est né. Sans y être allé, dans cet album, le Michigan, ses couleurs, ses grands lacs, ses arbres aux couleurs de l'automne se devinent. Ouais. Quelques années plus tard, Sufjane Stevens dévoile Illinois sur le même principe, raconté en musique les paysages, les rues et les odeurs de cet État américain. With the slide of his hand, running far, running fast to the dead. He took off all their clothes for them. Complexe, Sophie. Sufjane Stevens donne envie de faire un pèlerinage dans tous les lieux dont il parle pour en comprendre leur saveur.
Alors, il raconte des histoires. J'imagine que sa musique, il faut plutôt l'écouter comme on écouterait une comédie musicale.
Exactement. C'est là tout le génie de Sufjane Stevens. Son œuvre entière est flottante. Elle s'égare parfois comme elle se révèle. Et vous le disiez, il a songé à faire un album sur chacun des États américains. Projet appelé le 50 States Project. Mais il a aussi bien créé une symphonie autour du bruit ambiant d'une parcelle d'autoroute. Un album de Noël. Un autre sans parole de 40 minutes qui ressemble plutôt à des bandes originales de films de science-fiction. Mais il y a eu aussi Sophie, Carrie Anne Lowell, son 7e album et qui est à mon sens l'un de ses plus prodigieux. Certains matin, on commençait par goûter à la musique de Soufiane Stevens en allant au cinéma avec le film Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, pardon, sur un amour défendu entre un élève et son professeur. Mystery of Love est la bande originale pour ce titre. Soufiane Stevens a même été nommée aux Oscars en 2017. By the time I cried, I built your walls around.
C'est si mélodieux à chaque fois, et léger. Et Soufiane Stevens vient de sortir un nouvel album, youpi !
Et oui, un album dans lequel il chante de nouveau l'Amérique, mais alors cette fois avec une mélancolie profonde et plutôt sombre. Il dit « Je t'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai honte d'admettre que je ne crois plus ». Permettez-moi simplement, Sophie, de terminer cette chronique par l'un des plus beaux titres que je n'ai jamais entendus. À mon sens, évidemment, je suis une fan absolue de Soufiane Stevens. Alors ce titre, c'est Mercury, et dessus, Soufiane Stevens n'est pas tout seul. Il est accompagné par d'autres grands musiciens comme Bryce Dessner du duo The National, et ensemble, ils avaient fait un projet musical appelé Planétarium.
Stevens, raconté par Angèle Châtelier, fan.
Oui.
Et dont le dernier album vient de sortir, il s'appelle The Ascension. Merci beaucoup Angèle pour la balade planante. À suivre, en ce mois d'octobre, octobre rose, on va découvrir une technique de détection des cancers du sein dont des personnes aveugles ont le secret.
Europe 1, les carnets du monde.
C'est devenu une habitude, le mois d'octobre se teinte de rose, manière de se rappeler que le dépistage du cancer du sein est essentiel pour découvrir tôt la maladie et pouvoir la soigner au mieux. Et aujourd'hui dans les carnets, on va évoquer une technique de détection absolument originale, développée par des femmes aveugles, on les appelle les examinatrices médicales tactiles. Grâce à la sensibilité exceptionnelle de leurs doigts, elles peuvent détecter avec précision nodules et tumeurs, même de quelques millimètres. C'est la méthode Discovering Hands, en français les mains qui découvrent, mise au point par un gynécologue allemand à la fin des années 2000. Écoutez ce reportage étonnant d'Ellen Kohl à Berlin.
Eva Bamberg vient chercher les patientes d'un pas sûr et les accompagne jusqu'à sa petite salle d'auscultation. Elle est aveugle, mais elle se déplace sans canne. Après 10 ans de travail dans ce cabinet de gynécologie, elle contourne les obstacles avec habileté, comme la petite fontaine décorative ou les plantes en pot. Cette dame est venue pour un contrôle mammaire. Pendant plus de 40 minutes, Eva Bamberg va inspecter sa poitrine du bout des doigts. Mais la consultation commence par une série de questions. Taille, poids, nombre de grossesses, d'allaitement, s'il y a déjà eu des cancers du sein dans la famille. Puis, avec du papier adhésif frappé de petits points en braille, la poitrine de la patiente est symboliquement divisée en plusieurs grandes parties.
Au total, je vais coller 5 bandelettes, par exemple là, au milieu, sur le sternum. Ce sont juste des points de repère pour que je m'oriente et que je n'oublie aucune zone. Ce sont comme des coordonnées géographiques sur la poitrine. L'examen en soi ne fait absolument pas mal, mais si vous ressentez des points sensibles, dites-le-moi pendant l'auscultation. Et maintenant, je vais palper la poitrine centimètre par centimètre, aussi les couches en profondeur, d'abord doucement sous la peau, puis jusqu'à toucher la cage thoracique.
Ses doigts entament une danse comme une valse ultra légère de 7 petites pressions presque sur place. Eva Bamberg maîtrise tellement cette technique qu'elle l'enseigne, même maintenant, à des jeunes femmes aveugles dans un centre spécial. C'est une formation qui dure 9 mois.
Souvent, on me demande, mais qu'est-ce que vous cherchez? Je ne cherche pas directement des tumeurs. En fait, chaque femme a son propre schéma de tissu mammaire et mon rôle, c'est de trouver des anomalies dans ce schéma, des choses qui ne collent pas avec le modèle. Je cherche juste des erreurs dans le système.
Selon plusieurs études, les palpatrices non-voyantes seraient capables de détecter 50% de cas de cancer en plus que les gynécologues. Avec 69 000 nouveaux cas par an, le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes allemandes. Le docteur Christine Hoffmann a été l'une des premières à Berlin à faire confiance à l'expertise de ces femmes non-voyantes.
Ce n'est pas une alternative à la mammographie ou une échographie. C'est un tout autre concept. Nous nous considérons comme deux spécialistes complémentaires dans leur approche. Moi, en tant que médecin, et Madame Bamberg avec son expertise tactile. Les patientes viennent du coup plus souvent, une fois dans l'année pour le contrôle classique, et une deuxième fois pour Madame Bamberg. Nous travaillons bien ensemble.
Eva Bamberg est modeste, mais elle a peut-être déjà contribué à sauver des vies. Elle se souvient notamment d'un cas.
La visite de contrôle annuel n'avait rien montré. Tout était en ordre. Mais elle est venue en plus chez moi. La tumeur était très petite. Elle n'aurait pas pu la sentir elle-même. La tumeur n'était pas palpable en position debout. Absolument pas. La dame avait à peine 40 ans. Tout s'est très bien fini pour elle.
Comme elle n'est pas médecin, c'est toujours le docteur Hoffmann qui établit le diagnostic.
Si elle a un doute, si quelque chose ne lui plaît pas, elle m'appelle immédiatement. Nous avons mis ça en place dans notre cabinet de façon à ce que la patiente soit tout de suite auscultée par moi, avec une échographie le cas échéant. C'est moi qui tranche s'il faut d'autres examens. La patiente ne rentre pas chez elle avec des questions ou des craintes.
En Allemagne, de plus en plus de caisses de santé prennent en charge ce type d'auscultation, mais comme Katia, patiente régulière de Eva Bamberg, de nombreuses femmes sont prêtes à payer elles-mêmes autour de 35 euros pour la palpation.
Oui, parce que je trouve que c'est une excellente alternative aux examens plus invasifs et que c'est plus doux et meilleur pour mon corps. J'ai le sentiment que c'est intensif, précis, et comme ce sont des personnes aveugles, je me dis qu'elles ont forcément plus de capacités sensorielles et donc je leur fais davantage confiance.
Katia trouve que l'examen avec Eva Bamberg incite aussi les femmes à se palper elles-mêmes régulièrement leur poitrine.
Elle a un modèle de poitrine en silicone sur lequel on peut sentir soi-même ce que serait une anomalie, car en fait, on n'en a aucune idée. Les seins changent beaucoup au cours du cycle et moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Et du coup, je ne me palpe pas assez.
Au total, une cinquantaine de femmes non-voyantes travaillent en Allemagne avec cette technique, soit dans des cabinets de gynécologie, soit dans des centres de dépistage du cancer. La méthode commence à s'exporter en Europe, mais aussi au Mexique, en Colombie et en Inde. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Voilà, Discovering Hands, les mains qui découvrent ou comment des personnes aveugles arrivent à détecter des cancers du sein. Bonjour Mahasti Sagatchian.
Bonjour.
Professeur Sagatchian, vous êtes cancérologue. Merci d'être en ligne avec nous. Alors dans les carnets, on se demande souvent comment ça se passe chez les autres. Or, en l'occurrence, on n'est pas égal devant ce cancer du sein. C'est d'abord une maladie des pays développés ?
Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, juste un commentaire sur votre reportage précédent. Je trouve que c'est une initiative vraiment fabuleuse. Ouais. Ce moment du dépistage, de l'examen du sein est un moment extrêmement difficile. Et je crois que cette approche a vraiment quelque chose d'humain, d'empathie, qui doit énormément aider les femmes à aller vers ce dépistage. On le rappelle, qui est très, très important, de quelque façon qu'il se fasse.
Et donc, est-ce que c'est d'abord une maladie des pays développés ? Je vous repose ma question.
Effectivement, si on regarde une carte du monde, on retrouve une incidence, c'est-à-dire un nombre élevé de cas de cancer du sein, essentiellement dans les pays occidentaux et essentiellement dans les pays industrialisés. Et ce nombre de cas, en fait, augmente proportionnellement à l'industrialisation d'un pays.
Et pourquoi ?
Plus un pays... Ben, d'abord, la durée de vie va évoluer, c'est-à-dire que on ne mourra plus de maladies infectieuses, on ne mourra plus de problèmes cardiovasculaires, de problèmes infantiles, et donc le vieillissement est le facteur de risque essentiel de cancer du sein. Mais en même temps, il n'y a pas que ce facteur-là. On sait malheureusement que l'industrialisation apporte son lot de mauvaises hygiènes de vie, de malbouffe. Ouais. Voilà.
Est-ce qu'il y a un facteur génétique, voire ethnique ?
Alors, en fait, les cancers sont toujours une interaction entre nos gènes et notre environnement. Effectivement, il y a des variations génétiques qui sont très très bien connues. On sait par exemple, si on regarde les femmes afro-américaines, donc américaines d'origine africaine aux États-Unis, elles n'ont pas du tout les mêmes types de cancer du sein, ni le même âge de survenue de cancer du sein que les femmes caucasiennes, indépendamment des modes de vie. Mmh. Et en l'occurrence, ces cancers du sein plus jeunes, plus agressifs qu'on voit chez les afro-américaines, on va les retrouver également en Afrique et on se rend compte qu'il y a vraiment des profils génétiques spécifiques. C'est quelque chose aussi qu'on retrouve, par exemple, dans la population juive ashkénaze, avec une transmission de certaines mutations génétiques, le gène BRCA, qui expose fortement au cancer du sein. Donc, oui, il y a une génétique prédisposante, mais ce n'est pas tout. Et encore une fois, l'environnement, les polluants naturels, très probablement, mais aussi mal manger, être en surpoids, ne pas bouger, c'est clairement un facteur de risque de cancer du sein. A contrario, d'ailleurs, c'est démontré aujourd'hui que avoir une activité physique soutenue diminue de 30% le risque de cancer du sein. Manger bio diminue le risque de cancer du sein et du côlon, et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est cette interaction gène-environnement qui fait qu'au niveau mondial, on n'est pas égal face au cancer du sein.
Et on sait ce qu'il nous reste à faire, en tout cas, maintenant. Merci beaucoup de toutes ces explications, professeur Marastis Agatchian. Je précise que vous êtes cancérologue à l'hôpital américain de Neuilly et à l'Institut Gustave Roussy, centre de traitement du cancer à Villejuif. Dans le Val-de-Marne.
Absolument.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir. Et dans un instant, on continue à parler de santé, mais de santé mentale, dont c'était hier la journée mondiale de sensibilisation. Et c'est au Kenya qu'on va constater qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. À tout de suite.
Les Carnets du Monde sur Europe 1.
Hier, samedi 10 octobre, le monde commémorait la journée de la santé mentale, un terme qui embrasse des réalités très différentes. À cette occasion, l'ONG Human Rights Watch vient de publier un rapport qui souligne qu'à l'échelle du monde, 792 millions de personnes ont un problème de santé mentale, soit une personne sur 10, et parmi elles, un enfant sur 5. Et pourtant, les gouvernements consacrent moins de 2% de leur budget santé à cette question de la santé mentale. Résultat, des centaines de milliers de personnes se retrouvent parfois enchaînées, attachées et enfermées par leurs proches, souvent faute de moyens ou juste par ignorance. Une pratique courante dans plusieurs pays, parmi lesquels le Kenya. C'est là que nous allons. Reportage à Nyeri, au nord de Nairobi, dans les pas de Charlotte Simonard.
Comté de Nyeri, une région rurale au centre du Kenya, connue pour ses plantations de thé et ses terres agricoles. Un chemin de terre, quelques baraquements de briques et de tôles, et puis sur ma gauche, une cabane en bois aux airs de bergerie. Derrière ces planches, on devine une voix féminine, cette Anna, la cinquantaine. Anna parle en continu, enchaînant prières et paroles incohérentes. Elle n'était encore qu'une écolière lorsqu'elle a été diagnostiquée déficiente mentale par les médecins. Depuis 30 ans, Anna vit enfermée dans cette cabane insalubre. C'est Gladys, sa belle-sœur, qui s'en occupe.
Elle est enfermée là-dedans parce qu'elle s'échappe et qu'elle est folle. Elle court trop vite. Je ne sais plus la rattraper. Le matin, je lui donne un petit déjeuner, du porridge ou du lait. Quand elle défèque dans son lit, je la lave. Parfois, je l'emmène quelques minutes au soleil pour la réchauffer. Mais dès qu'elle s'énerve, je l'enferme à nouveau.
Gladys accepte que je lui parle, mais pas sans être encadrée par les hommes de la famille. Car Anna peut être violente, me disent-ils. Lorsque la porte s'ouvre enfin, une dame menue m'accueille tout sourire. Elle s'est même habillée pour l'occasion. Elle vit dans cette cabane de 2 mètres sur 3 à l'odeur insoutenable. Une bassine pour ses excréments, une autre pour se laver une fois par semaine. Un lit infesté de puces qui ronge la peau de ses orteils, comme elle me le montre avec insistance.
Je suis tellement mal ici. Je voudrais tant aller dehors me réchauffer au soleil. Je me souviens quand j'étais à l'école et que je pouvais profiter de la nature. Aujourd'hui, regardez ces traces sur mes bras. Ils m'ont enchaînée à mon lit.
La famille n'explique pas clairement ce dont souffre Anna. Elle vole, elle crie, elle agresse parfois et agit de manière incohérente. Voilà pour le diagnostic. Pour la soigner, ils ont décidé de la garder enfermée car ils n'avaient pas les moyens de lui assurer un suivi médical. médicale. Mais au fil des ans, son emprisonnement a aggravé son état de santé mentale. Ses proches se sentent aujourd'hui démunis. Il faut dire que le Kenya compte moins de 2 psychiatres par million d'habitants. La santé mentale est loin d'être une priorité. Alors Anna reste enfermée 7 jours sur 7.
Ici, c'est mon lit, là où mon Dieu m'a dit de rester.
De part et d'autre de son lit, deux cordes pendent au mur pour attacher ses bras et l'immobiliser sur son lit en cas de grosse crise. Gladys n'en est pas fière, mais elle n'a pas le choix.
Je suis obligée de l'attacher à son lit parce que, si je ne le fais pas, elle arrive à s'échapper. L'autre fois, elle est devenue hystérique. Elle a cassé la porte et s'est enfuie. Je ne suis pas heureuse de faire ça, mais je n'ai pas d'autre choix.
Gladys et sa famille essuient les remarques désobligeantes de la communauté qui les accuse de protéger un monstre, le diable en personne, Anna. Au Kenya, les maladies mentales sont tabous. Marie Ndegou, qui m'accompagne pour cette visite, travaille dans une association qui tente de sensibiliser la population aux droits des malades mentaux.
Ce genre de situation est assez habituel ici. La plupart des familles enferment leurs proches malades à cause de la stigmatisation, de la honte. Les maladies mentales sont souvent associées à la sorcellerie, des mauvais esprits. C'est pour cela qu'ils les cachent. Ce n'est pas parce qu'ils ne les aiment pas. Ils les aiment, mais c'est la seule option pour eux. Ils ne peuvent pas payer d'institutions spécialisées. Ils n'ont même pas de quoi se nourrir.
Non loin de là, je rencontre une autre famille, celle de Margaret, une jeune fille de 22 ans, elle aussi enfermée dans une petite pièce lugubre et sale pour l'empêcher de s'enfuir. Margaret est tombée en dépression il y a 2 ans à la mort de sa mère. C'est Rose, une cousine, qui l'a prise en charge.
À la mort de sa mère, elle pleurait beaucoup. Elle ne voulait plus sortir de la maison. Je l'ai emmenée chez le médecin, mais il n'y a rien à faire. Je fais ce que je peux. Je suis de sa famille éloignée, j'ai une maison à payer. C'est difficile pour moi.
Assise sur son lit, Margaret a le regard vide, un visage juvénile. On lui donnerait 10 ans de moins. Elle ne répond que par oui ou par non, sauf lorsqu'elle évoque son rêve.
Je veux avoir une belle vie. Je m'ennuie ici. J'ai besoin d'une belle maison, en ville, parce que là-bas, il y a du pain, des oranges, des bananes, des biscuits, de la farine, du riz, du sucre, de l'huile et du sel. C'est bon. Je veux des enfants et je peux même travailler.
Sa famille rit aux éclats en entendant ces paroles innocentes. Margaret, elle, ne rit pas. Elle est assommée de médicaments, comme me le raconte Rose.
Quand elle est sous médicaments, elle ne sort pas de son lit de la journée. Elle ne fait que dormir, même pour manger. Elle est tellement faible qu'elle ne sait même pas se lever. Un jour, elle est sortie et elle est revenue avec les vêtements déchirés. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je veux la protéger.
À l'instar d'Anna et de Margaret, des milliers de Kenyans souffrent de troubles psychologiques plus ou moins sévères. Une vague récente de suicides a finalement déclenché une prise de conscience des autorités. Il y a quelques mois, le gouvernement a lancé un groupe de travail chargé de rédiger de nouvelles politiques en matière de santé mentale, jusqu'ici inexistantes. Nairobi, Charlotte Simonard, Europe 1.
Voilà, reportage terrible, je trouve, hein, auprès de ces personnes dont le seul horizon, c'est 4 murs et la solitude. Bonjour Charlotte.
Bonjour Sophie.
On vous retrouve depuis le Kenya. Il y a ce chiffre fou que vous donniez, 2 psychiatres par million d'habitants, qui laisse penser que, comme on l'entend dans votre reportage, les troubles mentaux ne sont traités qu'à travers les médicaments et l'enfermement.
Oui, il y a un tel manque de formation des professionnels que les médecins, face à un trouble mental, administrent systématiquement des traitements lourds, souvent mal dosés, calmants, somnifères, antidépresseurs, et les patients finissent comme des zombies. Il y a quelques centres psychiatriques, 10 dans tout le pays, mais ces structures sont à l'abandon, avec des bâtiments insalubres, sans personnel qualifié. Il n'y a souvent même pas un psychiatre. Au Kenya, le budget alloué à la santé mentale correspond à 0,01% du budget total de la santé, soit 20 centimes d'euros par Kenyan et par an.
Alors on comprend que la santé mentale est vraiment complètement oubliée jusque-là, mais les choses pourraient changer.
Oui, le gouvernement a lancé un vaste chantier pour mettre en place de vraies politiques de santé mentale. Alors, il est question d'investissement, de sensibilisation, de formation et surtout de faire de la santé mentale une urgence nationale. Tout est parti d'une vague de suicides et de dépressions enregistrées dans le pays ces dernières années. Cela a ému la population et libéré la parole, mais tout reste à faire. Imaginez, le suicide, par exemple, est considéré comme un crime ici. En cas de tentative avortée, vous risquez 2 ans d'emprisonnement. C'est dire comment sont considérés les troubles psychiatriques au Kenya.
Effectivement, la prison pour tentative de suicide. Effectivement, le chemin reste encore long, tout reste à faire, vous le disiez. Merci beaucoup Charlotte pour ce sujet sensible et ce reportage édifiant. À très bientôt dans les carnets.
Merci Sophie.
Un peu de douceur et d'humour dans ce monde parfois si dur. C'est Joseph Chovanec qui nous emmène au Nautistan dans un tout petit instant.
Europe 1, les carnets du monde.
On fait tellement de découvertes grâce à lui, grâce à Joseph Chovanec. Son univers, c'est l'autistan, c'est-à-dire le monde entier qu'il sillonne, mais à travers son regard de philosophe et autiste Asperger. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Certains auditeurs se rappellent peut-être que vous parlez beaucoup de langues.
Ah oui.
À la louche, une douzaine. Vous adorez les langues. Qui inspire votre réflexion du jour ?
Mais oui, Sophie, à l'école, on apprend des langues diverses étrangères, mais dans les fêtes, c'est rarement ce que l'on entend quand on marche dans la rue. Comme le dit une boutade allemande, comment est-ce qu'on repère les étrangers en Allemagne ? Ouais. Parce que ce sont les seuls à parler correctement l'allemand. Et en Italie, pareil, hein, je crois que les seules familles à parler l'italien littéraire à la maison sont les familles étrangères qui veulent s'assimiler et qui, de fait, ne s'assimilent pas.
Mais alors les autres, les locaux, parlent quoi alors ?
Mais quand on est napolitain, par exemple, à la maison, on parle napolitain. Parler l'italien, ce serait la déchéance ultime. Et pendant longtemps, ce constat m'a agacé. En bon enfant, puis ado autiste, je cherchais la conformité à la règle. Je chassais ce fantôme de la langue pure au sens de la régularité parfaite. Et il m'a fallu beaucoup d'années avant de comprendre que la multiplicité des dialectes, de façon de parler, cela exprimait la vie. Et je pouvais moi-même en profiter. Car oui, si tout le monde parle bizarrement, je peux me fondre dans le paysage et on ne peut pas me le reprocher, non ?
Et depuis, vous essayez de repérer les dialectes pour passer inaperçu.
Exactement. Voilà. Et cela m'attire de singulières aventures. L'autre jour, j'étais en voiture avec une psychologue belge germanophone, issue de ce petit coin un peu à part de la Belgique où on parle allemand. Alors bien sûr, vous vous devinez, je l'ai interrogée longuement sur les dialectes bizarres de chez elle. Elle a commencé à m'énumérer certains des dialectes avec lesquels elle avait le plus de problèmes. Puis elle a marqué une pause et elle a énoncé d'une voix sombre. Mais le pire de tous, c'est le dialecte de la Calamine.
Alors la Calamine, c'est une commune belge de ce coin germanophone de Belgique, pas très loin de Liège.
Oui, mais il faut garder une part de mystère. Ouais. Ce nom-là bizarre qui évoque la calamité m'avait tout de suite fait comprendre quelle était ma prochaine destination de vacances. En cherchant un peu, j'ai appris que la Calamine ou Kelmis en allemand, c'était le point de confluence d'un peu tous les idiomes imaginables. Le dialecte local est un mélange de flamand, de néerlandais, d'allemand, de wallon liégeois et de francique ripuaire, ainsi que plus cocasse encore d'espéranto. Autant dire, c'est un lieu à visiter de toute urgence.
Et donc, je parie que vous y avez filé.
Exact. Dimanche dernier, avec mon vélo, sous la pluie, je me suis héroïquement élancé depuis la dernière station de chemin de fer, Hergenrath, vers cette mystérieuse localité de la Calamine. Et ce fut l'une des meilleures journées de mon année, parce que plus qu'un dialecte, c'est un pays que j'ai découvert. Car oui, la Calamine a été pendant plus d'un siècle, jusqu'en 1919, la capitale du plus petit pays d'Europe. Une zone triangulaire d'une cinquantaine de maisons en tout. Après les guerres napoléoniennes, les grandes puissances n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur son statut et donc l'ont laissée indépendante, la chance, sous le nom un peu bizarre de Mauresnay-Neutre, là où se rejoignaient les frontières néerlandaises, belges, allemandes.
Mais c'était un vrai mini-État avec drapeau et tout ?
Oui, tout à fait, Sophie. Le Mauresnay-Neutre avait son drapeau, ses timbres qu'on peut encore voir au musée, mais aussi son hymne en espéranto, Amikeyo, l'amitié, vous l'avez deviné. Car oui, au début du siècle, ce territoire hors statut attirait certes les touristes qui venaient envoyer de là-bas une carte postale, mais aussi les militants du tout jeune mouvement espérantiste, eux qui voulaient changer le monde. Alors ce monde-là, hélas, il a un peu disparu. La mine de minerai qui avait donné son nom à cette micro-capitale, Eh bien, elle a fermé. Le Moresnet neutre a été englobé dans la Belgique. Il est tombé dans l'oubli, hein, gardant son secret. Un peu à la façon du village Trumpf, qui est toujours derrière les collines. Hein. Et d'une certaine façon, ça ne fait que renforcer son charme à mes yeux. Hein. Peut-être que le pays des gens bizarres ressemble exactement à cela. Il est au confluent des autres pays, mais un petit peu dans son secret, à l'écart.
Vous êtes surtout partout chez vous, j'ai l'impression.
Oui, c'est vrai.
Merci de nous avoir fait découvrir le Moresnet neutre. Et donc, bonne prochaine vacances à la Calamine ou en Calamine, je ne sais pas comment on dit.
Tout est possible, je crois. Là-bas.
Merci Joseph, à dimanche prochain.
Merci, à tantôt.
Merci de nous avoir accompagnés. C'est l'heure de refermer les carnets du monde. Un grand merci à Romain Leborgne qui a réalisé cette émission, à Marion Gauthier qui m'a aidé à la préparer. Et hop, je vous passe le témoin. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Sophie.
Qui recevez-vous dans quelques minutes ?
Alors, ça va vous faire plaisir. Je reçois le camarade Pierre-Louis Basse qui publie son nouveau roman et nous visiterons la bibliothèque de Jean Tellet. On va bien s'amuser.
Joli. La Voix est libre, c'est juste après les infos. Bonne émission.
À tout de suite.
Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 13h, sans faute, pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.